Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Nous n'avons qu'une terre. Alors au menu du jour, si je puis dire, on va parler de nos déchets. Vous savez qu'ils sont la plaie de notre siècle, que le mot d'ordre pour tous est de les réduire, car la chasse aux déchets ne date pas d'hier. Dans les années 80, c'était la jungle. La Suisse, l'Allemagne envoyaient tout en France. Les propriétaires d'anciennes carrières faisaient fortune en jetant tout cela au fond du trou. Des dirigeants s'enrichissaient avec un trafic de déchets industriels en Afrique. Une véritable mafia du déchet avait vu le jour. La jungle, finalement, s'imposait. Et la première règle juridique qui fut prise fut la Convention de Bâle avec la défense d'exporter des déchets. La deuxième fut de moderniser la politique nationale en encourageant le tri et le recyclage. Le producteur devint alors responsable de son produit, du devenir de son produit après l'usage. Mais toujours, la production de déchets dépasse les actions de traitement. Et puis, de nouveaux produits voient le jour. Et encore faut-il définir ce qu'est un déchet. Aujourd'hui, par exemple, les restes de la fast fashion ont remplacé les huiles usées. Et on commence à rendre responsables les industriels du vêtement de la gestion de ces tas qui brûlent en Inde ou en Afrique. Une nouvelle approche est donc absolument nécessaire. Il reste nos déchets ménagers, nos ordures. Et malgré des solutions de tri, de méthanisation, de recyclage, de valorisation, il reste dans la métropole de Montpellier, par exemple, 110 000 tonnes de déchets à la fin de chaque année. René Revol, qui est le maire de Grabels, dit plus crûment eh « ben notre merde, on l'envoie ailleurs et c'est inacceptable ». Alors que faire ? Avec nous aujourd'hui, on va tenter de faire un peu le point. Et on a Jean-Louis Roumégas, qui est ancien député, porte-parole de ELV. Jean-Louis Roumégas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez aux manettes, ou en tout cas pas loin de lui, de Georges Frêche, quand il a fallu commencer à considérer ce dossier.
Alors, considérer, c'est une vieille histoire à Montpellier. Disons que le dossier des déchets est un long fleuve, pas tranquille, mais long à Montpellier. Et on peut dire que c'est un dossier qui a été marqué par des années entières d'immobilisme et ensuite des mauvaises solutions qui sortent du chapeau comme en ce moment. Voilà, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut.
Mais alors, pendant ces années quand même, c'était un petit peu d'ailleurs le fait un peu partout, on considérait peu les déchets. Donc de l'immobilisme, il y en
oui,
avait...
Oui, dans l'histoire de Montpellier, c'est exactement ça. Pendant des années, dans les années 2000, on se contentait d'envoyer les déchets dans une décharge à l'ancienne, qui s'appelle la décharge du Tot, qui est devenue une montagne au bord des étangs, entre Villeneuve et au sud de Latte. Et on ne faisait rien, un petit peu de tri sélectif avec des métaires, mais très peu. Et on a commencé, donc, sous l'impulsion des écologistes, à développer le tri et le recyclage.
Et c'était dans quelle année, ça ?
C'était dans le mandat de 2001 à 2008.
Oui, c'est récent, donc.
Et c'était Nicole Stamm qui en avait la délégation, qui a essayé de lancer une filière complète basée sur le tri, le recyclage et la valorisation de l'organique avec la méthanisation, ce qui existait très peu en France, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse ou même l'Espagne qui avaient depuis longtemps développé la valorisation de l'organique, puisqu'en gros, dans une poubelle, on a le recyclage, les emballages, on a l'organique, les déchets alimentaires, et ce qui reste, le déchet résiduel. Et donc, il fallait, si on veut valoriser beaucoup, il faut prendre la part de recyclables, les emballages, mais il fallait aussi s'attaquer à cette partie organique. C'est le choix qui avait été fait. Puis, il y avait aussi, on avait affirmé aussi...
Et donc, dans les départs, au début, on ne faisait que le recyclable.
Qu'une petite part
de recyclable. Une petite part du recyclable.
Et si vous voulez... et puis, c'était marqué aussi par le refus de l'incinération qui était déjà mis en place à Lunel ou à Sète, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une très, très grosse mobilisation citoyenne contre l'incinération à cause des problèmes de santé publique que cela pose. C'est-à-dire qu'on a montré que les incinérateurs dispersent dans l'atmosphère des substances qui créent des maladies respiratoires, des cancers. On a plusieurs études qui ont montré une augmentation des taux de cancer dans la périphérie des incinérateurs, etc. Donc il y avait une très très grosse bagarre et les écologistes sont opposés depuis toujours à l'incinération.
Et puisque... Montpellier envoyé à Lunel.
Et, mais, alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans le mandat suivant de 2008 à 2014, les écologistes n'étaient plus aux affaires. Et on peut dire qu'il y a eu un dévoiement de cette vision écolo qui voulait aller vers la collecte sélective pour valoriser au maximum, recycler, valoriser l'organique, etc. Avec le choix d'un tri mécano-biologique, en gros ça voulait dire qu'on ne triait plus chez les gens, mais on envoyait tout à la méthanisation avec une espèce de gros tri, un TMB, une espèce de gros trommel, une machine qui sépare grossièrement et qui du coup fait une mauvaise méthanisation, puisque ce qui est envoyé à la méthanisation est mélangé. Facile à comprendre, si vous essayez de digérer le meilleur plat, mais avec des morceaux de plastique, de verre, de fer à l'intérieur, vous allez avoir une digestion très mauvaise. C'est ce qu'on a fait. Et puis surtout, on a arrêté l'effort de collecte sélective, qui est la base de tout pour des écologistes. Si on veut réduire les déchets, il faut commencer par collecter, trier à la source. Dès que vous les mélangez, que tout est souillé, ça devient du déchet. À partir du moment où vous collectez séparément, vous valorisez vos déchets, vous valorisez votre papier, votre carton, votre verre, mais même votre du compost. Donc on peut valoriser beaucoup dans la poubelle. Et le but, c'est d'arriver à la fin, ce qui est plus du tout, très très peu de refus, très très peu de déchets.
Donc
résiduels.
On va redévelopper cette solution.
J'explique qu'en gros la vision qui a été abandonnée malheureusement, parce qu'en gros ce qu'on peut dire c'est que les seuls élus qui s'intéressent aux déchets ce sont les écologistes, la plupart des autres élus considèrent que c'est une charge, que ça embête tout le monde, que la population est contre toutes les solutions et que donc on confie ça à l'industrie qui avec ses machines magiques va prétendument tout résoudre. On voit avec l'expérience que ça n'est rien. Et encore une fois, on est devant un mauvais exemple qui se présente devant nous.
Alors justement, il y a un dossier qui redevient préoccupant et qui est au cœur des préoccupations de la métropole aujourd'hui. C'est la mise en œuvre de cette nouvelle gestion dont vous parlez. Et puis, alors il y a eu la déficience d'un des prestataires parce que dans la nouvelle gestion, on a remis en place de nouveaux appels d'offres et on a Urbaser qui a oublié de ramasser ses poubelles dans l'est de Montpellier, enfin dans son secteur. Et puis on a une démission. Alors vous me disiez donc que ça n'était pas une démission, mais que c'était finalement qu'il avait été un peu poussé dehors, quoi, face à la proposition de construction d'une nouvelle technologie.
Non, François Vasquez, le vice-président qui avait la délégation aux déchets, a été démis de ses délégations par le président Michael Delafosse. Qu'il a accusé d'être déloyal parce que, en fait, François Vasquez a de façon très salutaire dénoncé ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on avait remarqué depuis le début de mandat que rien n'avançait comme on le voulait. Ce qu'on avait fait voter, l'engagement de campagne pris par Michael Delafosse devant les électeurs, dans son accord avec les écologistes, c'était de dire on va faire du zéro déchet, de la réduction des déchets. Donc en améliorant la collecte sélective, en ayant des ambassadeurs du tri, en collectant les biodéchets, etc. En améliorant tout ce qui est collecte sélective, on va réduire et en incitant aussi au zéro déchet les gens à choisir des systèmes avec le moins de déchets possible. Ça, c'est l'engagement qui est affiché partout sur le site de la métropole.
Absolument, c'est ce que nous avons tous vu en tant que citoyens.
Il est affiché partout. Mais dans la réalité, on s'était rendu compte depuis un an ou deux que les moyens n'avaient pas été donnés à François Vasquez d'avancer dans cette direction. Et le pire, le comble, si vous voulez, c'est qu'au dernier conseil de métropole, dans le dos du vice-président qui est en charge le dossier, l'administration, avec évidemment l'accord de son président, dépose une délibération dans laquelle on prévoit un nouvel équipement qui n'a jamais été annoncé, qui n'a jamais été prévu. Et qui
donc ce fameux CSR.
Ce fameux CSR. Qui est l'opposé de la réduction des déchets, du zéro déchet.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CSR ?
Un CSR, c'est un incinérateur. D'abord, il faut rappeler ça. C'est un incinérateur, quasiment la même chose que ce qu'on a combattu historiquement.
Mais alors, il y en a dans des grandes villes, il y en a au Havre, par exemple.
Simplement, oui, il y a des incinérateurs aussi, mais un CSR, ça veut simplement dire que ce sont des combustibles solides de récupération. Au lieu... Ça veut dire que, si vous voulez, on va brûler des choses qu'on n'a pas valorisées. Par exemple, après le TMB à l'usine de méthanisation, quand vous avez passé dans la grosse moulinette, là, il y a plein de choses qui restent, qui ne peuvent pas être digérées par la méthanisation, et donc qui seraient broyées. On en fait un combustible. Alors, il y a du plastique, il y a du papier, il y a du carton, des choses qui brûlent bien, qui sont intéressantes pour l'industriel qui va faire de l'argent là-dessus, qui va faire payer d'abord la collectivité et puis qui ensuite va produire de l'énergie. Mais c'est aberrant parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, quand vous choisissez ce système d'incinération des CSR, donc c'est de l'incinération, ça veut dire que vous pariez sur le fait que les gens ne vont pas trier les plastiques, les emballages, etc.
Parce qu'il faut bien sûr que ça puisse brûler. Ben il faut qu'il y ait de quoi le faire brûler.
Il faut que ça ait qualitativement...
Il n'y a pas d'énergie.
Tout à fait. Il faut que qualitativement, ça ait une valeur calorifique, une valeur combustible. Et il faut qu'il y en ait suffisamment pour faire tourner la machine. Ce genre de machine ne tourne pas progressivement. Il faut qu'elle tourne à plein, ne serait-ce que pour des raisons de température. Et donc, il faut l'alimenter. En gros, la France Nature Environnement dit très bien la formule réduire les déchets ou faire du combustible, il faut choisir. Voilà. Et donc là, c'est contraire à la politique de zéro déchet. C'est fait dans le dos du vice-président, contre l'accord qui a été signé. Ça sort du chapeau au dernier moment. C'est évidemment une solution proposée par les industriels. Mais moi, je le dis, c'est une trahison des électeurs et une trahison des accords signés avec les écologistes.
Alors, ce CSR, les industriels l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent de bien ? Parce qu'on ne passe pas d'une technologie à une autre sans être capable de la vendre. Donc, comment la vendent-ils ?
Pour l'industriel, c'est simplement une opportunité de gagner de l'argent sur une obligation des collectivités qui est de se débarrasser de ces déchets, de se débarrasser entre guillemets, de traiter ces déchets. Donc l'industriel, lui, il propose des solutions qu'il estime rentables et en ce moment, les CSR sont
le rentable, c'est l'énergie. Voilà. Donc,
alors il joue sur une ambiguïté, c'est que comme ça vient d'un déchet, c'est pas soumis à la taxe carbone, mais ça, on sait très bien que ça ne va pas durer. Hein, parce que quand même, les plastiques, les cartons, etc., c'est du carbone. Et ça vient du pétrole, en grande partie. Donc, si vous voulez, peut-être que pour l'instant, il y a une espèce de niche fiscale, mais qui ne saurait durer et qui, de toute façon, sur le plan philosophique, est une aberration.
Et donc, on est typiquement dans, justement, la gouvernance de court terme.
On est dans de la gouvernance...
Beaucoup d'élus travaillent sur de la gouvernance de court terme.
On est dans... la délégation à tout point de vue à l'industrie, aux multinationales. C'est pour ça que je suis assez frappé, étonné, pour tout dire, de voir la position de René Revol, qui est le représentant de la France insoumise à Montpellier, qui commence son communiqué par la lutte anticapitaliste, des grands mots, et puis dans la réalité, il préconise donc une solution qui est celle des multinationales. Contre les solutions citoyennes. La solution citoyenne, c'est celle que proposent les écologistes, la collecte, le tri sélectif, la réduction des déchets. Et au lieu de ça, ce monsieur propose donc une solution alors vraiment capitaliste, si c'est ça les mots qu'il veut employer. Alors peut-être que c'est parce que lui-même, en tant que vice-président délégué aux eaux usées, à la gestion de l'eau, va faire un incinérateur des boues à la Serrered. Alors peut-être qu'il s'est dit, je défends de mon côté un incinérateur, il faut que je sois aussi pour l'incinérateur. Mais enfin,
ça ne marche pas comme on veut non plus du côté de la régie publique
mais
des eaux.
Mais c'est totalement aberrant. Et alors surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va pas résoudre les problèmes que René Revol ou Michael Delafosse prétendent résoudre, c'est-à-dire l'exportation des déchets. Bien entendu qu'il faut mettre fin à l'exportation des déchets. Mais d'une part, le CSR ne va pas le faire, parce que la plupart des déchets qu'on exporte, c'est des déchets qui vont à l'enfouissement et qui ne sont pas combustibles. La majorité des déchets qu'on exporte ne sont pas combustibles. Et donc, on va rajouter un étage supplémentaire qui va empêcher le tri, et on aura quand même le problème de l'enfouissement à résoudre, parce qu'en l'état actuel, il nous restera des déchets à enfouir.
Il restera quand même quelques déchets à enfouir.
Pas quelques déchets, une majorité des refus déchets ne sont pas des combustibles. Ouais. Si vous voulez, les combustibles, vous l'avez dit vous-même, ils sont déjà envoyés sous contrat, soit à notamment à Lunel et un petit peu à Sète, mais...
ils envisagent de résoudre, de réduire. Hein.
C'est ça.
Ils voudraient
à juste titre. Lunel veut réduire. Ils ont entamé une phase de réduction puisqu'ils étaient à 120 000 tonnes et ils diminuent pendant 10 ans de 3 000 tonnes par an pour descendre à 90 000 tonnes et fermer un four.
C'est leur ambition, effectivement. Oui.
Ils font dans leur syndicat des efforts pour cela. Ils ne seront pas prêts à accueillir indéfiniment des déchets de Montpellier. Donc la vraie solution pour Montpellier, c'est la réduction des déchets. C'est ça qui fait qu'on aura moins de déchets résiduels.
Alors justement, vous avez préconisé un certain nombre de solutions, mais ça ne va pas être comme d'habitude en matière d'écologie, puisque c'est toujours très complexe. Ce n'est pas une solution qui va permettre de résoudre toutes les tout. Alors, reprenons-les dans l'ordre. Celles qui marchent d'abord, il y en a quand même. Les choses ont évolué quand même.
Alors,
Y a quand même des choses qui ont bougé un petit peu.
Alors, il y a des choses qui ont évolué. J'ai le tableau des chiffres ici sous les yeux. Il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, l'apport volontaire en déchetterie, c'est beaucoup développé. On est à 76 000 tonnes aujourd'hui. Hein, pour 127 000 dans la poubelle grise. Donc vous voyez quand même que c'est des chiffres importants. La part de la déchetterie, on va dire qu'il y a une bonne partie qui est valorisée, puisqu'on trie à la déchetterie. Les déchets verts sont compostés, le papier, le carton, le bois sont recyclés, le métal est recyclé, etc. Bon, on pourrait aller plus loin, on pourrait développer des recycleries. Les recycleries permettent aussi de démonter les objets.
Ça commence aussi. On commence aussi.
À Montpellier, il n'y a pas de recyclerie.
Il
n'y
en a pas à Montpellier,
publique.
Mais on commence à en voir un petit peu en France.
Il y a des expériences associatives, mais voilà. Il y en a quelques-unes en France. La recyclerie permet de réduire encore le déchet, puisque finalement, ce qu'on appelle déchet, c'est ce qu'on n'a pas pu valoriser.
Voilà.
Donc tout ce qu'on peut. Et en plus, les recycleries permettent de faire de l'insertion. Souvent, on crée des emplois à partir duquel on démonte des objets, on recycle, on réutilise ou on recycle les matières.
Et puis ça indique aussi des choses sur notre société de consommation. Hein, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter une nouvelle paire de chaussures, on fait réparer l'ancienne. Donc
bien sûr.
On voit qu'il y a quand même une aide financière. On voyait par exemple, où j'étais à 13h aujourd'hui, on voyait des nouvelles, des espèces de bonus qui étaient donnés à cette tâche.
Bien sûr. Mais la première chose à faire, c'est améliorer la collecte sélective. C'est le parent pauvre à Montpellier. Où il suffit de tourner dans les quartiers. Vous verrez qu'il y a des endroits où il n'y a pas du tout de tri. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait, ça fait des années qu'on le répète, François Vasquez et Célia Serrano, nos élus, se sont battus là-dessus, mais n'ont pas eu gain de cause. Et on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de métiers qu'on appelle les ambassadeurs du tri. C'est-à-dire des gens qui sont dans les quartiers, qui observent les poubelles et qui vont voir les gens pour résoudre les questions. En leur disant, là, il y a des erreurs de tri, là, il faut... etc. Il y a tout un travail, ne serait-ce qu'avec les
et
nouveaux
pourtant,
habitants.
On a l'impression que c'est une des choses qui a été faite dans les écoles maternelles.
Alors,
on a beaucoup travaillé avec les enfants sur les problèmes des déchets.
C'est le travail de notre élu, Célia Serrano, qui a fait cet effort dans les écoles. Mais je parle, moi, dans les rues. Les villes qui ont réussi la collecte sélective, c'est des villes qui ont envoyé même au porte-à-porte des ambassadeurs du tri expliquer comment il faut faire. Ça, c'est la première chose. Pour trier au maximum, on est loin. Par exemple, je vois sur les tris d'emballage, on est à 27 000 tonnes. Mais c'est un chiffre qui a à peine augmenté ces 10 dernières années. C'est-à-dire, on pourrait, pour 127 000 tonnes de poubelles grises, 27 000 tonnes, on pourrait facilement doubler le tri des recyclages. Et puis enfin, il y a surtout le développement de la partie biodéchets, c'est-à-dire tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est déchets verts, etc., qu'on peut facilement valoriser sous forme de compost.
Alors, les fameux bacs à compost devaient être distribués. On n'en a pas vu le jour. Enfin,
alors,
moi,
vous
je n'en
avez
ai pas vu le jour. Mais...
pour vous avez les bacs à compost, soit en individuel, ça c'est assez facile, mais même ça existe.
Mais ça n'a pas été fait.
Ça a un peu été fait, même en collectif aussi. En collectif, par exemple, vous avez des lotissements, enfin, ou plutôt des immeubles.
Dans quel quartier, oui
J'ai vu, par exemple, du côté d'Estanov, j'ai vu qu'il y a des composteurs dans la résidence des collines d'Estanov. Enfin, il y a plusieurs exemples qu'on peut citer où les gens apportent au pied de l'immeuble, donc dans des composteurs collectifs. Donc, on peut le faire même dans du collectif. Et puis, il y a la possibilité aussi qu'on avait étudiée à l'époque de collecte des biodéchets. Par exemple en Espagne, même des villes comme Barcelone collectent les biodéchets dans des immeubles de 8-10 étages. C'est possible. Ça demande.
Alors, via une poubelle particulière.
Une poubelle ou un sac particulier. En Montpellier, on avait initié la poubelle orange qui a été abandonnée, où il n'y a pas eu les efforts nécessaires. Bon, le biodéchet, en tout cas, c'est un gros gisement de valorisation et de réduction des déchets. Puis il faut inciter aussi les gens à aller vers du moins d'emballage, moins de déchets. Il faut, bien sûr, il faudra travailler sur la réduction des plastiques de façon générale. Tous les scientifiques nous disent que la planète entière, les océans sont inondés de plastique. Il faut à tout prix réduire ces plastiques, c'est l'avenir. Et on ne peut pas monter des filières qui parient sur la production de plastique pour créer du combustible. Enfin, c'est totalement aberrant.
Et on a vu pendant un petit temps les gens dans les magasins, dans les coopératives, etc., faire attention. Et puis de nouveau, on voit un tout petit truc de charcuterie mis dans un énorme pack en plastique. Ça reprend, ça repart de plus belle. Alors, on a l'impression qu'il faudrait être continuellement en train de gendarmer.
Mais pourtant, une collectivité peut inciter sa population à faire des choses comme ça. On voit que c'est la tendance. Vous voyez bien de ces magasins sans emballage, où il y a du vrac, etc., qui se développent. Donc il y a une demande de la population. Simplement, il faut donner les moyens à la population et il faut que la collectivité ait une politique cohérente. Si d'un côté...
Mais qu'est-ce que vous avez comme proposition pour ça, justement ? Parce que effectivement, les magasins ont fait l'effort.
Alors, la principale proposition, ça va être de récompenser les gens qui font l'effort de réduction de leurs déchets. Aujourd'hui, vous savez, le système, comment on paye pour ces déchets, c'est un système qui est totalement injuste. C'est ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Elle est calculée sur la surface locative du logement. C'est-à-dire qu'une personne seule, vous habitez seul dans votre appartement, pour telle surface, vous allez payer aussi cher qu'un professionnel qui produit 20-30 fois plus de déchets. En plus, il faut savoir, le scandale à Montpellier, c'est que les déchets économiques qui devraient faire l'objet d'une collecte professionnelle séparée sont intégrés à la collecte des déchets ménagers. Donc, c'est les ménages qui payent. C'est illégal, mais c'est comme ça, c'est appliqué comme ça. Mais aujourd'hui, ça montre simplement, ça met l'accent sur l'injustice de la TEOM qui n'est pas basée sur la quantité de déchets produits. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une redevance incitative qui fait que celui qui produit moins de déchets ou qui trie, puisqu'on ne compte que les déchets non triés, paye moins. Et c'est un système qui est plus juste, qui est incitatif et qui fait faire des économies aussi à la collectivité qui, du coup, a moins de déchets à financer. Parce que parfois, malgré le coût élevé, il arrive que la taxe des ordures ménagères ne soit pas suffisante et que le budget doive abonder aussi le financement.
Donc on a un vrai problème aussi financier quand même.
On a
un vrai problème financier.
Tout à fait. Mais les CSR
vont
aggraver.
Le déchet coûte cher à la communauté, d'une manière générale.
Bien sûr,
voilà.
C'est pour ça qu'il faut le réduire.
Et c'est pour ça qu'il faut changer de regard complètement, parce
qu'on
n'y arrivera pas.
L'écologie et l'économie se rejoignent, sauf pour les multinationales et les industriels, qui, eux, évidemment, confisquent cet argent qui est captif. C'est une taxe, c'est obligatoire, les collectivités sont obligées de traiter les déchets. Donc les industriels, ils vont vous pousser à toutes les technologies, toutes les solutions. Là, ils veulent ajouter un étage supplémentaire, les CSR à Montpellier, dont on n'a pas besoin. Ça va coûter plus cher globalement, puisque je vous disais que le tourisme des déchets va continuer quand même. Mais ils s'en fichent, c'est des marchés captifs.
Alors, au cœur de cette, donc ce brouhaha là, qui est en train de se développer à la suite de cette histoire, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre un petit peu? Est-ce que le maire prend conscience un petit peu du problème qui se pose?
J'ai l'impression que non, vu la campagne de presse qu'il a menée pour défendre son choix de CSR. D'abord, ça montre qu'il y a un gros problème de gouvernance de cette métropole. Parce que quand même, qu'un vice-président en charge des déchets ne soit même pas mis au courant, ça veut dire qu'on réduit les élus à l'état de figurants, d'élus croupions. C'est contre ça que s'est révolté François Vasquez, et il a bien fait. C'est pas qu'une réaction d'orgueil, c'est aussi politiquement, c'est inacceptable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est une trahison. On a mobilisé des électeurs sur cette promesse de réduction des déchets. Ça va poser des problèmes dans l'avenir aussi, parce que la santé publique, toutes les études montreront qu'il faudra... on va avoir un problème de santé publique avec un air qui est pollué. C'est pas la peine de faire des ZFE très impopulaires face à des gens qui n'ont pas de solution pour réduire la pollution de l'air, pour ensuite rajouter de la pollution de l'air avec des matières beaucoup plus toxiques, hein, cancérigènes.
Mais là, c'est parti. Donc,
mais c'est parti d'abord.
Comment vous allez faire
même si c'était voté, le 2 avril, de toute façon, il faudra plusieurs années pour que ça se réalise. Entre-temps, il y aura des élections et les écologistes n'abandonneront pas ce combat. Ça, c'est clair. Et dans tous les cas.
Donc, ça fera partie de vos priorités.
Ça fait partie de nos priorités. Si vous voulez, je sais que c'est assez caricatural pour des écologistes, mais les écologistes sont des élus qui s'intéressent aux déchets. Vous l'avez dit dans votre introduction.
Mais si, bien sûr.
Pourquoi ? Parce que le déchet, c'est vraiment, ça porte tout le rapport au monde, toute de notre civilisation. C'est
oui, les matières mais par exemple, on ne surveille pas assez la naissance de nouveaux déchets. Bien aujourd'hui, sûr. On crée des nouveaux déchets, on ne sait pas quoi en faire, parce que jamais... Enfin, on ne devrait pas avoir le droit de produire un nouveau déchet si on n'a pas la solution pour le recycler, par exemple. Évidemment, là, on est débordé par les plastiques, il faudra bien trouver. Le problème, c'est qu'on a toujours un métro de retard, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. D'abord, il y a plusieurs niveaux d'action. C'est vrai qu'il y a l'État et même le niveau international et les contraintes qu'on met aux industriels, les orientations qu'on donne aux industriels. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une liberté à peu près totale des industriels. C'est la rentabilité qui compte plus que l'avenir de la planète. Et ensuite, on a les collectivités qui se débrouillent avec aussi ces données. Moi, je crois vraiment que la voie d'avenir, ça ne peut pas être cet incinérateur de CSR.
Bah, de toute façon, on a beaucoup à apprendre du Sud. Le Sud a su largement recycler ses déchets et les utiliser parce qu'ils étaient dans une société de non-consommation, justement. Et moi, je me souviens d'un tournage sur la décharge de Mbeubeuse. Avant qu'elle ne soit transformée en incinérateur, elle faisait vivre des tas de gens, des tas de métiers qui en faisaient des jouets, qui en faisaient des bijoux, qui recyclaient les verres, qui recyclaient... Alors, évidemment, après apparaissent des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Alors, on est malheureusement obligé de se quitter et on aura encore l'occasion de reparler, bien sûr, de cette politique du déchet. Je voudrais, avant qu'on ne se quitte, rappeler qu'à la Cité des Sciences, à la Villette, pendant la COP28, s'est tenue une expo sur le traitement de certains déchets qui sont justement une merveille, qu'on peut transformer en merveille. Il ne faut pas voir toujours le déchet comme étant un rebut. Du 4 au 9 juin 2024, va se tenir un rendez-vous de l'urgence environnementale à suivre, justement, sur les déchets. Et il faut absolument changer notre regard par rapport à la fabrication de ces déchets.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.